Sébastien Legenny, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Au sommaire ce matin, le Tour de France rattrapé par la patrouille. La justice a ouvert hier une enquête pour des soupçons de dopage autour d'une équipe française où évolue notamment le Colombien Nairo Quintana. Un médecin, un kiné sont en garde à vue. Précision à suivre en direct. Où en est-on des couples binationaux séparés par le Covid? Le gouvernement promettait sur notre antenne d'y remédier cette semaine, mais le dossier n'avance toujours pas, on l'entendra. À suivre aussi une assemblée générale de l'ONU exceptionnelle sans aucun chef de l'État sur place. Le harcèlement de rue à Strasbourg, témoignage dans ce journal d'une jeune femme agressée en pleine journée. Et puis pour finir, le célèbre Café de la Paix qui vend une partie de son mobilier aux enchères, avis aux amateurs de cuir rouge.
Et dans 20 minutes à 7h50, Léa Salamé reçoit aujourd'hui l'avocat pénaliste maître Hervé Thémime. Il publie Secret Défense aux éditions Gallimard.
France Inter.
Et le soupçon plane de nouveau, Sébastien, sur la grande boucle.
Oui, soupçon de dopage, donc une enquête préliminaire, notamment pour administration de substances interdites, a été ouverte hier par le parquet de Marseille. Elle vise des membres d'une jeune équipe française, la formation bretonne Arkéa Samsic, et en particulier des proches de la star de l'équipe, le Colombien Nairo Quintana. Bonjour Jérôme Cadet.
Bonjour.
Vous avez suivi pour nous le Tour de France pendant 3 semaines. À l'origine de ces suspicions, une perquisition, c'était mercredi dernier, dans un hôtel de Méribel.
Oui, des perquisitions comme les gendarmes de l'OCLAESP, l'Office central de lutte contre les atteintes à la santé publique, ont l'habitude d'en mener durant le tour à la recherche de produits dopants. Mercredi dernier, près de Méribel, ils investissent l'hôtel de l'équipe bretonne Arkéa Samsic. Ils visent le groupe des Colombiens, la star Nairo Quintana, 3 fois sur le podium du tour, son frère d'ailleurs et leur compatriote Wiener Anacona. Selon le parquet, les enquêteurs retrouvent sur place des produits et une méthode dopante. Il s'agirait, selon le journal Le Parisien, de sérum physiologique et de matériel d'injection. Ces perfusions de sérum physiologique permettent de faire baisser le volume de globules rouges dans le sang et donc de masquer un dopage plus lourd. 2 personnes, le médecin et le kiné des coureurs colombiens, ont été placées en garde à vue. Elles ne sont pas salariées de l'équipe, assure son manager Emmanuel Hubert, qui dit soutenir ses coureurs mais promet des mesures au cas où l'enquête confirmerait les soupçons de dopage. Quintana est une véritable star en Colombie, un pays qui a connu de nombreux cas de dopage ces dernières années. Il a rejoint la formation bretonne l'automne dernier avec la promesse de la faire rentrer dans la cour des grands. Et pour le convaincre, Arkéa Samsic n'a pas hésité à recruter avec lui son staff et son médecin personnel. Mais après un début de saison flamboyant, Quintana est passé à côté de son tour, terminé à la 17e place.
Jérôme Cadet, merci du service des sports de Radio France. Malgré ses nouveaux déboires, le Tour de France fait toujours recette à la télé. 40 millions de téléspectateurs ont regardé au moins une minute de la grande boucle sur France 2 ou France 3, soit 7 millions de plus que l'an dernier.
7h33, protocole sanitaire allégé, Sébastien, à partir d'aujourd'hui dans les écoles.
On le disait hier, il faudra désormais 3 cas positifs et de familles différentes pour qu'une classe ferme. Durcissement, en revanche, dans la ville de Lyon, pas plus de 1000 personnes lors d'événements publics, extension du masque obligatoire dans 10 communes autour de Lyon et visite réduite dans les EHPAD. En revanche, pas de fermeture anticipée des bars et des restaurants. Ajoutons enfin que l'Italie va imposer un test Covid négatif à l'entrée sur son territoire à tous les voyageurs en provenance de plusieurs régions françaises, dont l'Île-de-France et la Provence-Alpes-Côte d'Azur. On en vient maintenant à cette situation douloureuse pour plusieurs centaines de couples, environ 600 couples binationaux, que la crise sanitaire empêche de se retrouver à cause des mesures aux frontières. Jeudi dernier, sur France Inter, Clément Beaune, le secrétaire d'État chargé aux affaires européennes, disait espérer des premiers laissez-passer pour la fin de semaine dernière, mais le collectif Love is not Tourism, mobilisé sur cette question, ne voit rien venir, Julie Pietri.
C'est un dossier de 37 pages que Nicolas, 43 ans, a envoyé à l'ambassade de France aux Philippines. À l'intérieur, pour prouver sa bonne foi, des photos de lui avec sa compagne, de nationalité philippine donc, des lettres de leurs 2 familles attestant que oui, ils sont bien en couple. Ils devaient même se paxer le 7 avril en France. Mais depuis l'envoi de ce dossier en août, et malgré plusieurs relances, rien, aucune réponse.
Ce qui est compliqué pour nous, c'est le fait de ne pas savoir quand est-ce qu'on va réellement pouvoir se retrouver. Nerveusement, là, ça devient vraiment très compliqué, en tout cas pour ma part. Les bloqués là-bas, on n'y croit plus. On nous a annoncé en fin de semaine des laissés-passer qui arriveraient peut-être fin de semaine dernière, début de semaine. Donc début de semaine pour nous, on le prend au mot maintenant. Hein.
Ce virus n'aime pas l'amour. Nous, si, tweeté début août, Jean-Baptiste Lemoine, secrétaire d'État en charge du tourisme, qui promettait déjà alors de traiter ces dossiers de manière spécifique. Fabien Lefebvre, du collectif Love is not Tourism, l'amour n'est pas du tourisme, se méfie désormais des annonces. Il n'a pas pu voir sa compagne durant en 6 mois.
Ah, clairement, on attend de voir. J'ai envie de dire, on ne l'a déjà faite. Les laissez-passer qui devaient être issus en 8 à 10 jours, au bout d'un mois, il n'y a rien eu. On reste effectivement sur l'expectative.
Pour faire pression encore sur les autorités, une manifestation est prévue ce dimanche devant le ministère des Affaires étrangères.
Contacté hier soir, le ministère a de nouveau assuré que les laissez-passer seraient délivrés d'ici la fin de la semaine. C'est du jamais vu. À New York, une assemblée générale de l'ONU en mode virtuel. C'est à partir d'aujourd'hui que les chefs d'État doivent prendre la parole au siège des Nations Unies, mais seulement en visioconférence, Bertrand Galichet.
En cette année du 75e anniversaire des Nations Unies, l'Assemblée générale de l'organisation inaugure une formule inédite, une session en l'absence des chefs d'État ou de gouvernement. Ils ne pourront s'y exprimer qu'au moyen d'interventions enregistrées en vidéo. Coronavirus oblige. Un rendez-vous irremplaçable, estime Pascal Boniface, directeur de l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques.
L'intérêt est bien sûr que chaque chef d'État peut présenter sa vision du monde. On se rappelle les duels entre Macron et Trump sur le multilatéralisme. Mais en même temps, il va manquer l'essentiel. Toutes les rencontres informelles, souvent décidées au dernier moment. Tous les échanges qui se font dans les couloirs. D'habitude, les discours radicaux peuvent être modérés par des contacts informels. Ceci ne sera pas le cas cette année.
La lutte contre le coronavirus qui interdit aux dirigeants de la planète de se rendre à New York, même si plusieurs d'entre eux étaient volontaires, sera le thème central de ce sommet virtuel. Le secrétaire général, Antonio Guterres, qui sera lui bien présent, compare la situation actuelle au lendemain de la Seconde Guerre mondiale.
Bertrand Galichet, aux États-Unis encore, la pression qui monte autour du remplacement très sensible de la juge et la Cour suprême Ruth Bader Ginsburg. Donald Trump annonçait hier qu'il désignerait une nouvelle juge en fin de semaine, samedi ou peut-être vendredi. Insultée et frappée simplement parce qu'elle portait une jupe. C'est ce que rapporte une jeune étudiante strasbourgeoise de 22 ans. Ça s'est passé vendredi dernier dans les rues de la capitale alsacienne, Strasbourg, où les témoignages de harcèlement de rue se multiplient depuis cet été. Elisabeth, elle, a décidé de porter plainte. Luc Dreosto l'a rencontrée.
Elisabeth rentrait chez elle à pied quand elle a croisé 3 hommes d'une 20aine d'années près de la médiathèque Malraux.
Un des 3 hommes me dit « Oh, regardez cette pute en jupe » et je me permets de répondre « Pardon ». Et là, ils me répondent « Tu te tais, salope, et tu baisses les yeux ». Il y en a 2 qui m'attrapent. Le 3e me donne un coup de poing au visage et après les 3 s'enfuient.
Une 15aine de témoins assistent à la scène.
Personne n'a réagi ni pendant ni après et c'est ça qui me révolte le plus dans l'histoire.
Elisabeth s'en sort avec un énorme coquard à l'œil mais pas de fracture. Combative, l'étudiante ne veut surtout pas être intimidée.
Je relativise énormément la vie. Elle est tellement courte, il y a tellement de belles choses qui arrivent qu'il ne faut pas se laisser abattre. Et maintenant, avoir peur de sortir, avoir peur de mettre une jupe.
Même si le harcèlement de rue est devenu une plaie quasi quotidienne à Strasbourg.
C'est vraiment violent, c'est sale, c'est pervers. Et c'est toujours des remarques dans le dos. Il va lancer « t'es bonne » et il va partir tout de suite. C'est toujours très lâche en fait. Et c'est ce que j'ai remarqué cette année, voilà, c'est... l'été des lâches.
Elisabeth a porté plainte à la police. La municipalité de Strasbourg estime que moins de 10% des femmes victimes de harcèlement de rue et d'agressions sexistes osent le faire.
Luc Dreosto de France Bleu, Alsace. La fonte inexorable de la banquise en Arctique. La banquise presque à son niveau le plus bas historique. Elle a tellement fondu cette année qu'elle a atteint la 2e superficie la plus petite jamais enregistrée. Le réchauffement climatique, ce sera sans doute l'un des axes du grand oral de François Bayrou. C'est cet après-midi que le maire de Pau est le tout nouveau commissaire au plan doit présenter sa feuille de route. Ça se fera au CESE, au Conseil économique, social et environnemental, là où la Convention citoyenne pour le climat s'est réunie pendant des semaines. Tout un symbole, Yael Gauze.
Pour François Bayrou, il ne s'agit pas seulement de s'adresser aux décideurs, mais d'abord de faire participer toute la société, d'où cette entrée en matière par la Chambre des citoyens. Il y a tant de mètres cubes d'études et de rapports qui se perdent dans la nature, regrette le maire de Pau. Même les politiques ne les lisent pas. Il pense à ce livre blanc sur la défense qui, dès 2008, anticipait une pandémie de type coronavirus et les moyens de s'y préparer. On connaît la suite. À la tête d'un commando d'une 15aine de collaborateurs épaulé par l'administration de France Stratégie, François Bayrou va poser 30 questions clés, la plus brûlante étant de savoir dans quel secteur et comment la France peut rester souveraine. Un machin de plus, comme aurait dit De Gaulle ? Non, François Bayrou s'engage à communiquer au moins tous les 15 jours. « Je vais rendre cette institution visible parce que je suis visible », nous a-t-il confié. Il sera présent 2 à 3 jours par semaine à Paris, en Belgique. bénévoles. Emménagement prévu d'ici 2 mois dans ses futurs bureaux près des Invalides, encore en travaux. Une réflexion à horizon 2030 et au-delà, ce qui est aussi en partie l'ambition du plan de relance piloté à Bercy. Attention au risque de télescopage.
Et on termine, Sébastien, dans un haut lieu de l'art de vivre à la française.
J'ai nommé le Café de la Paix, l'un des cafés les plus célèbres de Paris, ouvert en 1862, fermé en ce moment pour cause de rénovation. Une partie de ses meubles seront vendus aux enchères à partir de demain, Yann Gallic.
Des buffets ornés de dorures, des guéridons, des canapés en velours sont entreposés sous l'immense verrière du Grand Hôtel, sans oublier les chaises en cuir rouge qui ont fait la renommée du Café de la Paix.
C'est la couleur de l'opéra, c'est la couleur des rideaux de l'opéra, c'est la couleur du Café de la Paix qui caractérise un petit peu ces couleurs de l'époque Empire.
Ce ne sont pas des meubles d'époque, la plupart datent de la fin du XXe siècle, explique Christophe Laure, le directeur du Grand Hôtel et du Café de la Paix. Mais le lieu, lui, est chargé d'histoire. Émile Zola, Oscar Wilde, Ernest Hemingway et Maria Callas sont passés par là, les plus grands hommes politiques aussi.
C'est la libération de Paris en août 1944. Le premier repas que le général Charles de Gaulle se fait servir depuis son char en arrivant sur la place de l'Opéra est un croque-monsieur du Café La Paix.
Encore en pleine rénovation, l'hôtel aura bientôt sa zone diplomatique pour accueillir des réunions officielles sous haute sécurité.
Il y aura une suite principale avec tout un environnement de sécurité. Les fenêtres seront blindées. Il y a ce qu'on appelle un panic room. Panic room étant un espace où vous pouvez vous réfugier en cas de souci, et avec aussi la possibilité de rendre hermétique cet espace. Donc c'est une suite plus 18 chambres.
Après 3 ans de travaux, le Grand Hôtel et son Café de la Paix devraient rouvrir au début de l'année prochaine.
Voilà le cuir rouge du Café de la Paix aux enchères. Reportage signé Yann Gallic.
Sébastien Logeni, merci.